News FM.
News FM, à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk.
Monte le son.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur News FM, il est 20h, je m'appelle Amine et je suis très heureux de vous retrouver pour le quatrième numéro d'Open By. Open By, votre émission qui vous permettra de répondre à la question « C'est quoi les bails ?» Autrement dit, quoi de neuf sur Grenoble et ailleurs. Ouverture d'esprit, partage, bienveillance, curiosité, telles sont nos valeurs. Comme tous les jeudis, pour m'accompagner tout au long de cette émission à la durée indéterminée, Mathilde est avec nous. Salut Mathilde.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Eh bien écoute, ça va très bien, je te remercie. Quoi de beau dans ton instant narration cette semaine?
Eh bien cette fois-ci, je vais encore parler de mon expérience de vie, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Le thème sera abordé pendant l'émission et voilà, je ne dis pas de plus.
Quel suspense, je crois que ça a un rapport avec notre invité et un événement qui aura lieu le 12 décembre.
En effet.
En fin d'émission, nous aurons également l'occasion d'évoquer la très talentueuse Laura Domanche. C'est une jeune artiste en pleine ascension qui se produira à la basse-cour les 12, 13 et 14 décembre pour affiner, préparer son prochain spectacle. Elle sera au téléphone avec nous, elle devait déjà se produire à Grenoble cette semaine, mais ça ne vous aura pas échappé, c'était la grève aujourd'hui en France. Partout en France, partout dans le monde même, les révoltes se multiplient, crise sociale, menaces sur la démocratie. Et à l'occasion de mon instant éloche, je vous emmène à Hong Kong. Et je vais vous parler d'un film à voir sur Netflix qui imagine les menaces sur la démocratie par le régime central chinois. Alors oui, c'est tendu, oui, c'est compliqué. Et pour apaiser les situations tendues, notre invité, c'est l'homme de la situation. Croiser les talents individuels pour en faire un commun, c'est l'un des credos de notre invité. C'est pourquoi la démarche de la soirée émergence du 12 décembre, qui est, paraît-il, déjà complète, lui sied si bien. Notre invité, c'est un homme de l'ombre, qui n'hésite pas à mettre les jeunes en avant. Mais ce soir, c'est lui qui est dans la lumière et il va tout nous révéler. Éric Moifou est le quatrième invité d'Open By sur News FM. Salut Éric.
Bonjour Amine, bonsoir Amine, bonsoir Mathilde.
Comment ça va?
Ça va un tout petit peu. Je suis un peu porté par une grosse émotion parce que c'est toujours les autres que j'aime voir parler. Et là, je me suis fait piéger par vous deux. Pour prendre la parole dans un média aussi important qu'on appelle News FM.
Effectivement, quelle pression, mais je te rassure, nous ne sommes écoutés que par nos amis et nos familles, pour l'instant.
C'est bien quelque chose.
On est très heureux de t'accueillir ici. Alors, déjà, Éric Moifou, il paraît que tu as trois identités différentes, entre le Cameroun, la faculté où tu travailles et la façon dont on te connaît, nous. Alors, quelle est ton identité?
Alors, je ne sais pas si je parlerai d'identité, je parlerai d'une multitude d'identifications. Je suis un singulier pluriel, si je peux dire ça comme ça. Je viens d'un pays qu'on appelle le Cameroun et j'en suis d'ailleurs très fier. Je vis dans un pays de façon transitaire qu'on appelle la France. À ma naissance, mes parents m'ont donné le nom de Moifondiontu, que j'adore, que j'aime bien qu'on m'appelle ainsi, et deux prénoms, Éric Robinson. Donc, ma pluralité en termes d'identification fait justement la personne singulière que je suis.
Très bien. Alors, pour mieux cerner cette personnalité singulière et plurielle à la fois, comme pour tous nos invités, on te propose un portrait chinois. Mathilde, est-ce que tu veux commencer le premier portrait chinois?
Oui, je veux bien. Alors, Éric, si tu étais un dessert?
Alors, si j'étais un dessert, je crois que je choisirais le flan.
Le flan?
Ouais.
On nous a dit que tu étais très gourmand, je me trompe?
C'est pas faux, j'aime la nourriture, j'aime manger. Mon épouse qui me suit, à qui d'ailleurs j'envoie une très belle dédicace, me fait souvent de la très bonne nourriture, Floriane. Ouais.
Si tu étais un livre, Éric?
Si j'étais un livre, je crois, j'en ai tellement plusieurs dans ma tête que je choisirais très certainement le livre de Mandela, Un long chemin vers la liberté.
Pourquoi?
C'est un livre qui symbolise en fait le parcours d'un homme sur sa capacité justement à transformer celui qu'on peut appeler un adversaire politique en un ami. Et je crois que Mandela nous enseigne sur cette capacité de résilience, c'est-à-dire comment transformer sa souffrance en une pédagogie de la vie.
Comme il dirait d'ailleurs, je ne perds jamais, soit je gagne.
Soit j'apprends.
Absolument. Mathilde.
Si tu étais une fleur.
Si j'étais une fleur,
Pas facile celle-là. Hein.
Ouais, c'est un peu compliqué. Je crois, pour faire plaisir à ma très chère et tendre épouse, je crois que je serai une rose.
Oh. Oh là là, qu'il est romantique. Ouais. Tiens, si tu étais une mauvaise habitude.
Alors, si j'étais une mauvaise habitude, je crois que je serais, et là peut-être mes amis vont certainement beaucoup rigoler, je serais un homme égoïste.
Égoïste ? Ouais. Pourquoi ?
Toi, égoïste.
C'est pas alors, du tout l'image qui a été ressortie de toi, vraiment. Alors, nous, on te connaît un petit peu.
Alors, vous m'avez demandé de choisir de mauvaises habitudes. J'ai choisi cette face contraire que je combats, donc on appelle l'égoïsme, qui, de mon point de vue, ne met pas en avant la personne qui s'exprime ou bien qui agit. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai dit, si j'étais une mauvaise habitude, je serais égoïste.
C'est peut-être une mauvaise habitude que tu cherches à combattre, en fait.
Exactement.
Très bien. Mathilde, tu en fais un autre ?
Oui. Si tu étais un style de musique.
Si j'étais un style de musique, je crois, je serais porté par le blues.
Le blues ?
Ouais, parce que c'est un genre musical qui a été... dont les esclaves, voilà, pendant la période d'esclavage, ces personnes-là qui étaient transportées d'un continent à l'autre ont réussi à produire un art musical pour justement affirmer leur présence et le refus de subir la domination des négriers de l'époque.
D'accord. Si tu étais un personnage de fiction ?
Si j'étais un personnage de fiction, alors là, c'est très compliqué parce que moi, les films de fiction, j'en connais pas beaucoup.
Ouais.
Je dirais Matrix, peut-être. Hein. Parce que justement, il a cette capacité de tordre son corps, de se laisser transpercer par les balles, sans toutefois perdre son élan ou son énergie. Je crois que je serais Matrix.
Mathilde.
Si tu étais un gros mot.
Alors là, c'est compliqué. C'est
il
compliqué.
Faut tout dire.
Si j'étais un gros mot. Je crois, je dirais, comme cette expression que j'ai découverte en France, je m'en bats les couilles. Désolé. Désolé vraiment pour les auditeurs. C'est une expression très usitée dans le milieu jeune que je côtoie au quotidien. Et
oui.
J'en suis familier. Pas que je m'approprie cette expression. Bien évidemment, ça ne fait pas partie de mon jargon lexical. Mais voilà, si j'étais un gros mot, je crois, c'est cette expression-là.
Et c'est ce qu'on aime beaucoup chez toi, Eric, c'est que tu peux très bien expliquer que je m'en bats les couilles est un terme très usité dans le jargon que je côtoie habituellement. Allez, on en fait un petit dernier. Tu veux le faire, Mathilde, ou je le fais ?
Tu peux le faire, si tu veux.
Allez, je le fais. Si tu étais une émotion.
Alors là, si j'étais une émotion, je crois, je dirais, je serais davantage porté par une émotion de tendresse. Parce que la maman qui m'a mise au monde, justement, était une femme très attendrissante.
Ouais.
Je lui dois beaucoup parce que ce que je fais aujourd'hui au quotidien, c'est le fruit de l'éducation portée par cette maman dont le départ me marque jusqu'à aujourd'hui.
Et on en est tous vraiment désolés.
Merci.
Et bien, pour évoquer le thème de la maman, je te propose qu'on passe à la musique suivante de Kenji. Kenji Girac,
exact.
Les yeux de la maman.
Ouais.
Une chanson qui te touche ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Pourquoi ?
La première fois que j'ai écouté Kenji Girac, je ne vais jamais l'oublier. J'étais assis dans ma chambre et je me suis mis à pleurer parce que les mots qu'il employait pour décrire sa maman, je voyais la mienne. Et rien que l'évoquer me rend, comme je suis encore très ému parce que, vous savez, la maman compte beaucoup.
Oui.
Bon, ça, c'est de mon point de vue. Ma maman a beaucoup compté pour moi. Elle n'a pas eu la chance de faire les longues études, mais elle m'a soutenu, elle m'a porté. Elle a fait de moi l'homme que je suis par son enseignement, et j'en suis fier. Et c'est pour ça que quand j'ai écouté Kenji Girac, je me suis dit, j'ai dédié ce morceau à ma propre maman.
Eh bien, c'est beau. Je crois qu'on est tous, avec Mathilde, on est émus dans le studio déjà de d'entendre cette histoire-là qui, je pense, fait écho à
Je
à
n'en parle jamais, d'ailleurs.
Ben, écoute... Et est-ce que c'est par rapport à ça qu'on t'appelle ? Est-ce que c'est lié à ça ? Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le passant ? Ou est-ce que tu te fais appeler le passant ?
Oui, c'est une expression employée, c'est un mot ou une notion employée par un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Achille Mbembe.
Uh-huh.
Achille Mbembe, c'est un historien politologue qui vit en Afrique du Sud, qui est d'origine camerounaise, qui utilise le mot passant pour dire qu'il a le droit au mouvement, le droit à la circulation. Donc je me revendique comme étant celui qui adore le mouvement, qui adore circuler et qui n'est pas sédentaire en un lieu.
Et justement, en parlant de mouvement, en parlant aussi d'émergence, justement, oui. Comment faire que des gens se meuvent, se bougent et fassent quelque chose. On va parler justement de cette soirée émergence qui aura lieu, salle Olivier Messiaen, le 12 décembre 2019.
Tout à fait.
C'est une soirée qui va mettre en avant des talents divers de la région grenobloise, en danse, en hip-hop, en rap, en éloquence, en chant lyrique. Soirée auquel participeront Mathilde et votre humble serviteur...
Amier.
Ah, merci. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi nous ne serons pas en direct à 20h la semaine prochaine, mais on vous prépare quand même des choses très sympathiques. Ouais. Alors ce projet émergence, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment il est né ?
Alors, il faut dire que je n'étais pas au début de la création de ce beau projet émergence porté par la chef de projet de la mairie de Grenoble, Madame Noa Ouazizi, qui m'a convié à émergence 2 lorsqu'il a fallu mettre en place des masterclass éloquence. Donc, c'est en arrivant pour la mise en place d'émergence 2 que j'ai essayé, modestement, humblement, à produire une philosophie autour d'une notion que j'appelais les communs. Et le commun pas qui ira à contre-courant de ce qu'on appelle la diversité, qui pour moi est un club élitaire de personnes venant de différentes couches. Pourtant, le commun, c'est la capacité à mettre des gens qui soient à même de se parler et d'ouvrir des espaces propres au conflit. Donc, dans l'émergence, il a été question dès le départ de mobiliser les trajectoires de vie.
Oui.
Des personnes présentes pour leur dire votre talent, c'est la résultante de votre parcours personnel. Et si vous maîtrisez votre parcours personnel, alors vous devenez un expert de votre vie. Si vous êtes expert de votre vie, vous pouvez la conjuguer avec d'autres expertises pour former ce qu'on appelle une lumière qui viendra resplendir le commun.
Oh là là, c'est beau. Mathilde, tu as une question.
Oui, j'ai une question. Quel a été ton rôle dans ce projet émergence ?
Alors, mon rôle a davantage été sur deux choses. La première, c'était d'écouter ce que les jeunes ont. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que tout le monde est porteur d'une lumière et que cette lumière-là, il faut simplement la révéler. Donc, il a été question pour moi de dire aux jeunes qui venaient, vous avez une lumière, ce n'est pas parce que j'ai un doctorat que je viendrai vous enseigner. On peut s'enseigner mutuellement. Et l'idée, c'était de faire en sorte que le jeune présent ait confiance en lui. Parce que s'il a confiance en lui, il devient un acteur agissant dans la société. Le deuxième objectif a été justement de faire conjuguer ces différentes lumières, que chacun intègre, qui ne peut être meilleur que si et seulement si le groupe vit, si et seulement si le groupe arrive à créer ce qu'on appelle une forme de symbiose. Donc ce sont ces deux choses sur lesquelles j'ai travaillé et qui m'a amené à construire la philosophie du commun émergence qui, au fil du temps, jour après jour, pas après pas, on essaye de donner un contenu pour que justement cela soit un élément qui singularise l'action dans le champ public en France, partant de la ville de Grenoble.
Une question, je me souviens, Mathilde, à une répétition, avait posé une question à toi et puis aussi à d'autres intervenants. Mathilde, est-ce que tu veux nous dire la question ?
On est quoi pour vous ?
Qu'est-ce que les jeunes qui participent à ce projet émergence, qui viennent de divers quartiers, qui ont chacun des talents différents, comme tu as dit, chacun une lumière, qu'est-ce qu'ils sont pour toi, Eric ?
Ça, c'est sans vous flatter. Je pense que tous les jeunes que j'ai rencontrés ont participé à révéler ma part d'ombre. C'est-à-dire, ma part d'ombre, c'est parfois cette face cachée de ma vie qui, en vous regardant, en vous observant, m'a permis justement de comprendre que on n'est pas détenteur de tout et que l'autre qui vient peut révéler votre part d'ombre et la combler en lumière. Donc, pour vous, vous êtes cette petite lumière qui, mis ensemble, m'ont permis de tracer ma voie.
Alors justement, qu'est-ce que tu as appris de ces jeunes, des jeunes de divers quartiers ? Qu'est-ce que tu as appris d'eux ?
J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris justement, la première, c'est que l'intelligence, elle n'est pas que universitaire, elle n'est pas que livresque. Que l'intelligence, elle est aussi la résultante d'un parcours. Et que lorsqu'on a la capacité de mobiliser des mots pour traduire son parcours, on devient un expert. Et si on devient un expert, on peut acquérir la casquette de pédagogue. Ouais. Donc, tous les jeunes que j'ai rencontrés m'ont permis de renforcer ma pédagogie de l'action en écoutant leur parcours de vie, en me disant que si je prends tous ces parcours, alors je peux être en capacité de mettre tout ça en musique et de montrer que la diversité, elle est belle.
Justement, tu en as un petit peu parlé il y a quelques secondes. En quoi le projet Émergence peut-il rassembler? Parce qu'on le voit à travers Émergence, on vient tous de lieux différents, on a tous des mentalités différentes. Uh-huh. Donc qu'est-ce que tu penses qui nous a fait rassembler finalement?
Ce qui a permis à ce projet de prendre corps, c'est qu'on n'a pas pensé à la place des jeunes. Très souvent, on a l'impression que le jeune est celui qu'on nous convoque que pour opérationnaliser l'action.
C'est-à-dire opérationnaliser.
C'est-à-dire, c'est que je reste dans mon bureau, je pense l'action et oui. J'appelle les jeunes, je leur dis, mettez ça en œuvre. Or, avec Émergence, ce n'était pas le cas. Avec Émergence, tous les jeunes présents, eux-mêmes, ont écrit leur texte. Et ce sont vos écritures qui ont été lues le 12 mars. Donc, vous avez été des acteurs dans la production de l'action. Et aujourd'hui, avec Émergence 4, on voit bien toute la force intellectuelle de tous ces jeunes-là, tout ce divers de jeunes qui sont en capacité, justement, d'apporter du leur dans ce qu'on est en train de construire. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui participent à Émergence peuvent se dire c'est aussi ma part. Ils se sont appropriés l'idée, ils se sont appropriés la philosophie. Donc voilà un peu ce qui fait la particularité du projet Émergence.
En quoi ce projet, il est nécessaire par rapport au climat actuel? Tu parlais justement de cette diversité, de comment. Mm-hmm. Est-ce que tu as le sentiment que la société est divisée, qu'on est un peu chacun dans nos couloirs?
Oui, beaucoup. Je l'ai beaucoup observé en France et même ailleurs, hein, que ce soit dans mon propre pays, le Cameroun. J'ai observé en France que les catégories sont davantage mobilisées pour renforcer le clivage dans la société.
Ouais.
Je vais prendre l'expression « jeune de quartier ». Lorsqu'en France, on dit « jeune de quartier », très souvent, c'est une notion qui s'est ethnicisée ou bien racialisée.
Ça renvoie. Concrètement, quand on dit jeune de quartier, on pense à des Noirs et des Arabes. C'est ça que tu veux dire?
Voilà, bon, c'est une expression. Bon,
concrètement, c'est.
Oui, concrètement, oui. Et puis, c'est aussi une notion qui est porteuse d'une charge très péjorative. Or, aujourd'hui, avec le projet Émergence, c'était justement de montrer que nous tous, nous sommes en capacité de faire dialoguer nos parts.
Ouais.
De faire dialoguer nos apports, quels que soient nos lieux d'ailleurs. Parce que nos lieux, on est né de façon accidentelle dans un lieu. Et c'est parfois la politique qui vient justement à qualifier des lieux de sensibles, de prioritaires. Pourtant, c'est de façon accidentelle que je vis à Fontaine. Ça ne veut pas dire que je suis comme mon voisin ou que mon voisin est comme moi. Alors, avec Émergence, on a réussi à montrer justement que nos singularités... sont une force et qu'on est en capacité justement de penser la société autrement.
On va passer à mon instant éloge parce qu'il y a une tension sociale qui est assez forte partout dans le monde. Les manifestations se multiplient, les oppositions, ce que certains ont appelé la gilet jaunisation du monde. Et c'est notamment le cas à Hong Kong, où le mois de novembre a été socialement très rude, notamment dans sa relation avec la Chine. C'est l'heure de l'instant éloge. Alors, je vais vous parler d'un film qui a été réalisé en 2015 qui s'appelle « 10 Years », 10 ans en bon français, et qui imagine sous la forme de 5 courts-métrages ce que deviendrait la région semi-autonome de Hong Kong en 2025. Bon, je pourrais vous passer un extrait, mais c'est pas très parlant à la radio. Réduction des droits humains, accroissement des tensions identitaires pour justifier une politique sécuritaire, mainmise du gouvernement central sur Hong Kong, vous vous en doutez? Le film n'a pas plu au gouvernement chinois. Il l'a censuré sur le territoire chinois, mais ça n'a pas empêché le film, 10 Years, d'avoir un grand succès à Hong Kong. Il avait un petit budget de 60 000 euros, et il en aurait rapporté près de 700 000. Le film a par ailleurs été primé lors des Hong Kong Film Awards. C'est une cérémonie qui n'a étrangement été pas diffusée par les chaînes chinoises. Donc ce film-là, qui est très polémique, qui est très intéressant par les thèmes qu'il aborde, un an après la révolution des parapluies à Hong Kong en 2014, c'est vraiment un film moi, qui m'a plu parce qu'il est polémique, parce qu'il est sensible, mais il ne faut pas le voir pour être ébloui visuellement parce que c'est un film à petit budget. Sincèrement, en termes de production et de qualité artistique, notre film n'était pas à la hauteur des autres nominés, mais sa signification est bien plus importante que sa réalisation. C'est ce qu'a d'ailleurs expliqué l'équipe du film sur le tapis rouge de la cérémonie. Et finalement, ce film, 10 Years, qui imagine Hong Kong en 2025, a fait des émules, puisque deux ans plus tard, en 2017, il y a eu un film, Ten Years, réalisé en Thaïlande. La Thaïlande, vous savez, c'est un pays où actuellement la junte militaire... Comment il s'est évolué depuis ? Mais à l'époque, la junte militaire était au pouvoir. Une femme nue lapidée par une foule rappelant les manifestants pro-junte, des soldats ridiculisés lors d'une opération contre une exposition de photos dans une galerie, une générale en uniforme rose en voyant les récalcitrants se faire découper dans l'espace, autant de sujets jamais montrés au cinéma habituellement, résumé l'AFP à propos du film Ten Years Thailand. Alors bien sûr, l'idée c'était pas de dire qu'en France, selon moi, la situation est identique, loin de là, et heureusement d'ailleurs. Mais je vous recommande de voir ce film, Ten Years, disponible sur Netflix, en réfléchissant et en vous demandant ce qu'est la société de demain en regardant cette excellente dystopie. Ce n'est pas la haine qui me fait continuer. C'est l'espoir. Il n'est pas trop tard. Eric, est-ce que ce film, Ten Years, est-ce que ça t'inspire une réaction ? Est-ce que ça t'inspire quelque chose ?
Oui, oui, beaucoup. C'est un film qui montre justement le combat que peuvent mener des personnes dans leur lieu de vie pour réclamer plus de liberté. Je viens d'un pays, justement, le Cameroun, où il y a des personnes, des hommes, des femmes, qui tous les jours se battent pour avoir un brin de liberté, un brin de lumière. Et je crois que ce film-là me parle et m'inspire et voilà, et me donne à voir un horizon autre.
Tu aimerais retourner au Cameroun et justement apporter cette liberté-là ou apporter autre chose ?
Non, la liberté, elle existe.
Elle existe, ouais.
Même dans les pays les plus fermés, la liberté, elle est là. C'est une quête. C'est l'action de tous les jours, même ici en France, partout où je me trouve.
Ouais.
Je suis en quête permanente d'un combat vers cette liberté où mon esprit est libre, où mon esprit vaque, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, j'aspire et je le revendique d'ailleurs, rentrer un jour dans mon pays, être ce pèlerin qui essaiera par ses actions justement à donner cette part de rêve de par ses actions pour que la liberté s'ancre et soit.
C'est formidable ce que tu dis, Eric. Je te sens un petit peu ému, pour être honnête. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale avec les auditeurs. Alors, quand on en a parlé, tu as choisi de partager différents titres avec nous, des titres qui sont en rapport avec un thème commun, la maman, la mère.
Ouais.
Et je te propose qu'on écoute une chanson qui s'appelle « Le portrait » du chanteur Calogero, qui est d'ailleurs de la région des Chirolles. On écoute et on en reparle après, et on se détend, on se relaxe.
Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie tous les soirs en secret. Ce dessin il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie tous les soirs en secret. Ce dessin se débat avec le coriace pluriel. Puis il explique à sa maîtresse pourquoi par an ne prend pas d'aise. Des câlins il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie tous les soirs en secret. Ce dessin il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie tous les soirs en secret. Ce dessin à partir d'un portrait. ce dessin, il le fait trait pour trait, à partir d'un portrait. Trait pour trait, à partir d'un portrait.
Et nous sommes toujours en direct sur News FM, il est 20h26, vous écoutez Open By. L'émission continue et nous venons d'écouter Le Portrait de Calogero. C'est une chanson qui est sortie, je ne sais plus en quelle année, mais ce n'est pas très important. Et pendant la pause musicale, justement, tu chantais la chanson.
On chantait la chanson.
On chantait tous la chanson, c'est
exact.
Vrai.
Déjà, l'artiste Calogero, je le porte beaucoup à cœur parce que quand je suis arrivé en France, je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer tous les amis des Chérol.
Oui.
Les familles de Kevin et Sofiane, parce que quand j'arrive en France, justement, c'est...
On va en parler tout à l'heure.
Voilà. Donc, Calogero, par son action, par le chant, plus jamais ça, et le morceau qu'il a fait, le portrait, voilà, tout s'est venu renforcer tout l'amour et l'affection que je lui portais, parce que, voilà, en mettant en musique tous les mots pour montrer justement l'attachement de cet enfant qui tente de dessiner sa maman, moi également, comme je vous l'ai dit, ça me parle et ça révèle, voilà, tout l'attachement que j'ai et que j'aurai toujours pour ma mère.
Et on va passer au bail d'actualité de la semaine dont tu voulais parler. Et tu, quand on t'a demandé le sujet qui t'intéressait, tu as voulu nous parler de l'islamophobie, des femmes voilées, des femmes musulmanes qui portent le foulard.
Tout à fait.
Alors, on en a déjà parlé avec notre invité la semaine dernière, le rappeur Mac. Et on vous invite d'ailleurs à réécouter son émission sur le site de News FM et en podcast sur les plateformes iTunes, Deezer, Spotify, voilà, tout ça. Pourquoi ce sujet, l'islamophobie, les femmes voilées, pourquoi ça t'a intéressé? Pourquoi est-ce que tu voulais qu'on en parle?
Je voulais qu'on en parle parce que le pays qui se présente comme le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, le pays qui symbolise la liberté, je voulais qu'on en parle parce que je suis souvent très impressionné de voir comment une société qui se revendique des Lumières est obsédée par le tissu, est obsédée par la distinction vestimentaire. Et je me suis demandé en quoi est-ce que le vestimentaire pense. Parce que justement, je travaille avec... une citoyenne française que j'apprécie beaucoup, Maya, avec qui on a écrit un livre.
Oui.
Nous sommes en train d'écrire d'ailleurs un livre.
Qui va bientôt être édité d'ailleurs.
Voilà, qui va bientôt être édité.
Aux presses universitaires.
Et quand je vois toute son action, je me demande en quoi est-ce que le foulard qu'elle porte sur la tête vient brimer sa liberté. Et je me suis dit, voilà, il faut parler de cette question, pas sous le prisme religieux, mais sous le prisme de l'expression de liberté de la femme. Peut-être m'en convoquant une notion qu'on appelle le féminisme. Parce que parfois, il y a une forme d'occidentalocentrisme du féminisme. En mettant en avant un modèle féministe,
ouais.
On peut être féministe avec le tissu sur la tête.
Bien sûr.
Et voilà, cette jeune Française que j'apprécie beaucoup, Maya, pour moi, c'est une féministe qui s'affirme, qui se bat pour ses droits, qui se bat pour sa liberté de s'habiller comme elle veut.
Et le livre dont tu parlais devrait s'appeler, si on m'a donné les bonnes informations, « Penser la non-violence et agir sur la violence. La violence n'appartient pas à un lieu. » C'est bien ça ?
Exactement, oui, exact. C'est ça.
Très bien. Alors justement, la question qu'on a envie de se poser aussi, c'est pourquoi est-ce que cette question du tissu, cette question du vêtement, pourquoi est-ce que la question du voile, de l'islam, pourquoi c'est des problématiques dont on parle autant ? On a posé la question la semaine dernière au rappeur Mac. Okay. Voilà ce qu'il en pensait.
Les musulmans, le terrorisme, le voile, c'est générateur de buzz. Donc les gens regardent. Ça crée une espèce de phobie et de paranoïa.
Ouais.
Voilà. Et les gens à côté oublient de regarder ce qui se passe réellement.
Est-ce qu'à ton avis, justement, cette question-là, elle est posée davantage pour cacher d'autres problématiques sociales qui sont, elles, peut-être plus difficiles à résoudre et faire un écran de fumée? Est-ce que tu partages ce point de vue-là ou pas?
Oui, totalement d'accord avec le rappeur Mac. Très souvent, la question, justement, n'est qu'une forme de décharge ou bien une façon d'esquiver ou bien la logique de l'esquive des vrais problèmes sociaux. Parce qu'on le veuille ou non, la France, telle qu'elle est,
oui,
ne sera jamais telle que les gens voudraient qu'elle soit. C'est-à-dire, on peut se faire tous les films dans la tête,
ouais.
Cette France sera toujours colorée, plurielle, comme un peu l'arc-en-ciel, si je peux prendre ça comme figure, comme image illustrative. Donc, il faut que les gens sortent justement d'une forme de monotonie de la pensée, ou bien de monotonie,
oui,
de la façon de lire la société.
Bien sûr.
La société, elle est dynamique, elle est évolutive, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée.
Oui.
Donc, dans cette évolution-là, les gens doivent accepter que je peux me revendiquer appartenir à cette terre tout en échappant à une forme de modèle imposé qu'on appelle l'identité française, dont je cherche encore à savoir ce qu'on met dans la notion d'identité française.
Ben, c'est très intéressant ce que tu dis. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne l'acceptent pas, qui ont du mal avec ça. Et ça a certaines conséquences, notamment dans les quartiers. On évoquait Villeneuve, on écoutait Chirol. Écoute ce qu'en disait Mac, toujours. On en reparle après.
Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un quartier ou que tu parles à un jeune, voilà, y a un mec qui va lui dire « Quoi que tu fasses, t'es pas français. Voilà. Tu veux un boulot, tu vas galérer. »
Alors, on a coupé après parce que c'était un petit peu long, mais dans l'idée, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, dans l'idée, parfois, il faut aller au-delà de, justement, de cette façon de se représenter la France.
Ouais.
Moi, modestement, j'ai accompagné 18 citoyens français. On a fait le tour d'Europe. Ouais. Il y a une image qui m'a marqué lorsque nous sommes arrivés au Danemark, dans la ville de Copenhague. Les jeunes que j'accompagne ont chanté la Marseillaise en mettant la main sur la poitrine. Donc là, ils avaient cette fierté de dire qu'ils sont français.
Ouais.
Parce qu'ils sont à l'étranger. Mais la question maintenant qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi ici, ils n'arrivent pas à l'exprimer. C'est parce que le discours dominant tend à vouloir exclure une bonne frange de citoyens de ce pays en leur faisant croire qu'ils ne sont pas mieux à même de comprendre ce que eux, ils appellent identité française.
Et justement, ces jeunes, tu les as accompagnés au Danemark et dans toute l'Europe dans le cadre d'un projet qui s'appelle Agir pour la paix.
Tout à fait.
Et toi, tu as agi pour la paix. Alors, on va parler d'une autre facette de toi, mais on va repartir en 2012 pour aborder un drame, une situation difficile, mais je pense que c'est nécessaire. Tu reconnais ce titre, Eric ? Tu le chantonnais tout à l'heure ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je connais très bien ce titre de Calogero.
Un jour,
au mauvais endroit. Tout à fait.
Alors, ça évoque bien évidemment le drame, le meurtre de Kevin et Sofiane en 2012.
Tout à fait.
Tu étais là, à cette époque-là. Tu connaissais quelqu'un de la famille, d'un des deux, je crois ?
Non.
Un proche, je crois ?
Je ne connaissais personne.
Tu connaissais personne ?
Ce drame est survenu.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, je ne sais pas. Je vais faire bref parce que l'histoire elle est un peu longue. Je vous ai dit en début d'émission que j'arrive en France le 12 juillet 2012.
Oui, c'est vrai.
Donc exactement 2 mois avant le triste événement parce que les deux ont été assassinés le 28 septembre 2012. Donc 2 mois après.
Ouais.
Alors j'étais en colocation. Quand je rentre le soir, je regarde le journal et que je vois qu'il y a 2 jeunes dans la commune de Chirol qui ont été sauvagement arrachés à la vie.
Oui.
Et comme je prenais le tram A, j'entendais Échirol, Denis Papin. Je dis, oh, ça veut dire que c'est quelque part. Donc j'ai pris le tram et je suis allé. Je voulais voir où il y avait eu ce drame-là. Déjà avant de prendre le tram, je me rappelle à l'époque qu'un ami m'avait dit ne pas jamais Échirol. Il m'avait dit c'était le Far West.
Bon. Le Chicago français.
Bon, c'était son expression à lui, c'était le Far West. Donc j'ai pris le tram, je suis allé et c'est le conducteur du tram qui m'a dit « Attends, reste dans le tram, je te montrerai l'endroit. » Donc j'ai fait la marche du 2 octobre. Donc j'ai fait bref hein, pour ne pas entrer dans le détail. Donc j'ai fait la marche du 2 octobre, je ne connaissais personne. Le soir de la veillée du 2 octobre, donc, il y avait un groupe de jeunes qui étaient allés à l'estrade pour faire un témoignage.
Oui.
Parmi ce groupe de jeunes, il y avait Oussem, il y avait Steven, dont Steven, le frère aîné à Kevin.
À Kevin, oui.
Donc, quand ce groupe de jeunes est sorti, je les ai suivis. Et je suis allé vers Steven. Si vous le voyez, il est baraqué.
Uh-huh.
Donc, j'avais très peur parce que je me suis dit, bon, je viens d'arriver en France, je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas. Donc, je suis allé vers lui et je me suis présenté. J'ai dit, bon, ben voilà, je suis Eric Moffaut, je voulais qu'on se rencontre. Donc, voilà comment on s'est noué d'amitié.
Pourquoi est-ce que tu voulais le rencontrer Enfin, tu as dit, je voudrais qu'on se rencontre. Ça a été quoi la réaction? Comment est-ce que Steven a réagi, comment est-ce que les autres jeunes ont réagi pour que justement ils te laissent entrer un petit peu dans leur vie?
En fait, ils étaient, je ne vais pas dire méfiants, mais bon, ils étaient très bienveillants.
Ouais.
Je me rappelle très bien ce soir-là, Steven m'a dit, il n'y a pas de problème, prends mon numéro. Mm-hmm. Spontanément, il m'a donné son numéro et deux jours après, je l'ai appelé. Il est venu me prendre à l'arrêt tram les Granges dans sa très, très belle voiture. Je suis entré, il m'a amené chez lui. Et voilà comment on a longuement échangé. Et je lui ai dit ce que je voulais.
Qu'est-ce que tu voulais ?
Je lui ai dit, je veux comprendre.
Ouais.
Et que j'étais très triste. Parce que c'est là, à l'instant, que j'apprenais qu'il était le frère aîné à Kevin. Et que moi, je viens d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Mm-hmm. Et lui, de me dit, moi aussi, je suis d'origine camerounaise. Ça, je ne le savais pas.
D'accord.
Donc voilà comment, de fil en aiguille, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, bon, je vais te montrer des jeunes et puis tu vas discuter avec eux. Donc de 2012 jusqu'à 2015, dont j'ai pris 3 ans, j'y allais constamment, discuter avec les jeunes, comprendre, et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Pour justement essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas, qu'on ne transforme pas leur colère, leur légitime colère, en une forme de vengeance, mais la transformer en pédagogie de la vie sur des questions non violentes. Donc voilà.
Et concrètement, donc entre 2012 et 2015, donc du coup, tu as contribué au collectif Marche Blanche, à agir pour la paix. Ça a pris du temps, hein, ça. Entre 2012 et 2015, 2014, vraiment, ça s'est concrétisé. C'est ce qu'on m'a dit. Uh-huh. Ce qu'on nous a dit, d'ailleurs, avec Mathilde aussi. Hein. Uh-huh. Justement, comment tu as réussi ? Tu sais, il faut être très patient, il faut être, comme tu dis, alors les personnes sont bienveillantes, mais peut-être tout le monde n'est pas forcément bienveillant au départ.
Tout à fait.
Comment, justement, qu'est-ce qui t'a motivé ou encouragé à être aussi patient avec ces jeunes, avec ces gens qu'au départ, effectivement, tu ne connaissais pas ?
Deux choses. La première, c'est l'éducation de ma mère.
Ouais.
Je vous ai dit, tout ce que je fais ici, depuis que je suis arrivé en France, ce n'est que la traduction de tout ce que ma mère m'a enseigné. C'était une femme hyper patiente. Et je me suis dit, depuis qu'il est décédé en 2007, je me suis dit, pour rendre hommage à ma mère, je vais essayer d'appliquer tout ce qu'elle m'a enseigné.
Ouais.
La deuxième chose, c'est l'histoire de Mandela.
Oui, ça tu nous en as
parlé. Mandela était quelqu'un, lorsqu'on lit le livre En long chemin vers la liberté, on voit la patience de cet homme. Je me suis dit, ben, au nom de quoi, moi, je ne peux pas le faire. Et je suis arrivé dans une structure associative qui s'appelle Modus Operandi.
Oui.
Et cette structure associative m'a donné les moyens intellectuels et même matériels de pouvoir mener à bien mon action.
Tu peux réexpliquer rapidement pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette association Modus Operandi, ce qu'elle fait ?
Donc Modus Operandi est une association basée à Grenoble et qui travaille sur les violences urbaines et sur les questions migratoires de façon très schématique. Donc on fait de la recherche, mais une recherche un peu décalée. Ce n'est pas tant une recherche au style universitaire du thème, même si nous tous, nous avons un parcours universitaire, mais c'est une recherche qui se fait avec les concernés. Donc, nous discutons avec les concernés, nous faisons la recherche ensemble, nous élaborons l'analyse ensemble, nous produisons des actions ensemble. C'est ce qu'on très souvent appelle la recherche-action collaborative. Donc, voilà ce que fait Modus Operandi, et c'est dans cette structure associative que j'ai eu à mener toute l'action que j'ai menée du côté de...
Et dans le cadre de cette action-là, dans le cadre de Agir pour la paix, Modus Operandi, tu as été amené à créer du lien entre différentes personnes.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait pour créer du lien, d'après toi ?
Créer du lien, c'est sortir de l'enfermement catégoriel. Mm-hmm. C'est-à-dire, je ne vais pas vers l'autre parce que, dit-on, il a une catégorie d'observation qui tend à renvoyer à la mienne. Non.
Oui.
Il faut échapper à l'enfermement communautariste et se dire... que l'idée que je porte, elle est aussi animée par, elle est aussi portée par tout le monde. La deuxième chose, c'est d'arriver à montrer aux gens qu'on ne peut pas agir en société de façon individuelle. On a besoin d'un autre. Donc, tisser du lien veut dire mettre les gens en relation, mettre les gens en contact. Et pour pouvoir le faire, il faut être très patient.
Ouais.
Bon, moi, ça m'a pris presque 2 ans et demi du côté de Chérol pour arriver non seulement à comprendre la légitime souffrance des proches de Kevin et Sofiane, mais également de les amener à entrer en dialogue avec d'autres, c'est-à-dire à transformer leur souffrance en ce que j'appelle une forme de pédagogie de la vie.
Ouais.
Et c'est pour ça que le 17 juin 2014, en présence d'Aïe de Calogero, c'était ce jour-là qu'on découvrait
cette chanson
dans le clip officiel.
Oui.
Donc, c'est les proches de Kevin et Sofiane, le 17 juin 2014, ont décidé ce jour-là de prendre la parole en public pour... affirmer non seulement leur souffrance, mais également leur envie d'agir dans la société.
Et agir dans la société pour la non-violence.
Exactement.
Et c'est ce qui a abouti à la création de la journée de la non-violence.
Tout à fait.
Le 2 octobre.
Le 2 octobre, qui d'ailleurs est l'année de naissance du Mahatma Gandhi. Et depuis 2007...
Oui, le jour de naissance.
Voilà, donc depuis 2007, les Nations Unies ont fait de cette journée la journée internationale de la non-violence. Donc je souhaite ici rendre hommage à cet homme pionnier de ce collectif Marche Blanche, tel que Pierre Reynaud, paix à son âme, qui a fait... qui a écrit un livre dont le titre m'échappe un peu, ça va peut-être me revenir, et de même qu'à son épouse. Donc ces deux-là ont été des pionniers dans la mise en place de ce collectif, dont Pierre et Françoise, de là où ils sont. Je tiens également à leur rendre hommage parce que par leur tempérance, leur persévérance, leur endurance, ils ont réussi à faire en sorte que l'idée de la non-violence se traduise en acte en créant du lien entre les personnes d'un certain âge avec des jeunes.
Et ça, Mathilde, il y a un ami d'Éric qui t'en a parlé. Il s'appelle Nabil. Qu'est-ce qu'il a dit de lui alors ?
Eh ben déjà, j'ai eu une conversation très intéressante avec lui au téléphone parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens avec Emine qu'on ne connaissait pas. Et en fait, ce qu'ils pensent de toi, nous aussi, on pense ça de toi. Et il ne tenait pas forcément à être enregistré ou envoyer un vocal, mais il a compté sur moi pour te faire passer un message, pour te dire qu'il t'aimait particulièrement, qu'il était très heureux de t'avoir rencontré parce que tu étais quelqu'un qui donnait de l'espoir, qui était un peu une lumière en fait. Et il t'admire beaucoup, et t'es plus qu'un frère, t'es un père spirituel, je reprends ses mots. Et tu es quelqu'un qui lui a appris ce que c'était la fraternité, alors que lui-même ne saurait pas donner de définition.
Ah ben, je sais pas. Nabil, il sait toute l'affection que je lui porte avec sa tendre épouse Amina, et leurs trois magnifiques enfants, son papa, ses frères Ayoub, Adèle, et tout le reste. Je l'ai rencontré... au sein du collectif Marche Blanche.
Ouais.
Et c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Peut-être il dit, je suis son nom, c'est, je ne suis pas un SPSP, je suis un passant. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé en lui, c'était de voir quelqu'un qui avait un parcours professionnel déjà plus ou moins aisé, confortable, dégager du temps pour les autres. Ouais. Et ça m'a tellement frappé. Je me suis dit, waouh, si on juge les gens de l'extérieur, lui, il a quelque chose en lui et qu'il faut absolument révéler. Et c'est pour ça que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis.
Et il y a quelqu'un d'autre qui pense un peu la même chose de toi.
Coucou Eric, c'est Oussem. Juste pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et pour moi plus spécialement. Tu es vraiment la personne avec le plus grand cœur que j'ai dû rencontrer dans ma vie. T'es plein de qualités, il n'y a rien à dire, Eric. T'as le cœur d'une maman, t'as le courage d'un papa, t'as l'affection, le côté protecteur d'un grand frère. T'es une famille à toi tout seul. Merci pour tout, mon moi faux. Je t'aime fort, 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 fort. Et oublie jamais un truc. Allez l'OM.
Oussem,
ouais,
un des premiers jeunes, agir pour la paix.
Ouais, c'est... Oussem, je le rencontre effectivement... au sein d'Agir pour la paix.
Ouais.
Et ce qui m'avait marqué chez Oussem, c'était sa capacité à rassembler des jeunes. Et je me suis beaucoup appuyé sur lui, justement, pour mobiliser des jeunes et Chérol, pour discuter autour des questions d'action non violente. Et je suis content et fier de son parcours aujourd'hui. Voilà. Et quand il dit « Allez l'OM », je pense à ma fille, si elle m'écoute, elle va dire « Ici, c'est », elle va répondre « Paris ». Voilà.
Ici, c'est Paris. Et alors, on parle d'agir pour la paix, on parle de ça, mais tu es aussi, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, tu es aussi docteur. Alors, pas docteur, pas comme un médecin. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans un avion et que vous appelez Eric, il ne pourra pas vous aider.
Exactement, je ne connais rien.
Mais si vous cherchez à en savoir plus sur la territorialisation du droit à l'éducation à partir d'une analyse des dynamiques du pouvoir, le cas de la région de l'extrême nord du Cameroun, là, vous pouvez l'appeler.
Oui, j'aime pas souvent trop parler des distinctions académiques parce que j'aime toujours dire, même quand j'enseigne, que le diplôme n'est qu'une forme de distinction, mais le diplôme ne te distingue pas. Ce qui te distingue dans la société, ce sont les actions que tu portes et que tu accomplis au quotidien. Oui, effectivement, j'ai un doctorat en administration publique où j'ai mené des travaux de recherche au Cameroun sur les questions d'éducation. Et voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis docteur, mais je ne m'en revendique jamais, je ne signe jamais docteur. Mm-hmm. Je préfère signer Eric Moifo, le passant.
Alors, je vais revenir un petit peu sur ta thèse. Alors, on ne va pas revenir sur le détail de la territorialisation de l'éducation. Juste sur la fin qui m'a beaucoup intéressé. Sans toutefois remettre en cause la place du droit dans l'organisation administrative, notre objet d'étude a permis de montrer que le droit ne peut pas tout faire. D'où l'importance qui doit être accordée à la place des émotions dans l'action publique. La prise en compte de ces émotions dans l'action publique ouvre un champ nouveau pour tenter de comprendre le fonctionnement de l'administration publique dans sa relation avec les administrés relative à la délivrance d'un bien public, comme celui de l'éducation. La place des émotions dans l'action publique. Pourquoi ?
Alors, la place des émotions dans l'action publique, je la tire simplement de l'expérience d'un de mes compatriotes, Baba Simon au Cameroun, qui, sur mon terrain de recherche, avait réussi quelque chose d'extraordinaire dans la région de l'extrême nord, c'est qu'il a pas sa capacité d'écouter l'autre.
Oui.
Il ne s'est pas enfermé dans une forme de rigidité en termes de droit, en termes d'obligation à envoyer les gens à l'école. Il s'est dit, mais pourquoi les gens ne vont pas à l'école ? Mmh. Donc, en essayant d'écouter la souffrance des gens,
ouais.
Il a réussi à leur montrer que leur souffrance-là peut être transformée en autre chose par l'éducation. Et c'est pour ça que je dis que si on veut opérationnaliser le droit à l'éducation, on doit être en capacité également, je me répète, désolé,
bien sûr.
De sortir de l'enfermement juridique pour prendre en compte cette part d'ombre que le droit ne peut pas seul révéler.
Mmh.
Donc, on a besoin d'autres sciences si on veut mettre en place des actions qui favorisent la mise en place ou la mise en œuvre du droit à l'éducation.
Et avec le recul, aujourd'hui, avec, voilà, ça fait plus de 7 ans que tu es en France maintenant,
oui.
De quoi tu es le plus fier ici ? Ou même pas que ici d'ailleurs, en général.
Alors, je me rappelle une chose, c'est que je causais une fois avec la maman de Kevin, que je salue, maman Aurélie, et elle me racontait qu'une fois elle est allée dans un hypermarché. Elle a rencontré une jeune fille qui lui a dit « Madame, grâce à vous, j'ai changé de voie.
Mm-hmm. »
Et aujourd'hui, ce qui peut me rendre fier, c'est qu'un jour aussi, quelqu'un s'arrête et me dise « Eric Moifaux, ce que tu as fait là, ça contribue à me rendre fort. » Et c'est pour ça que j'étais très ému quand Oussem parlait. C'est la première fois que je l'entends avoir sauf cette... voilà, je lui dis merci d'ailleurs. Ce courage et qu'il accepte de parler de moi... de la sorte.
Mmh.
Donc, ce qui peut me rendre fier, c'est ça. C'est de voir des gens se dire que ce bonhomme-là, ce passant-là, par les petites choses qu'il a eu à mener, ont contribué à transformer sa propre personne.
Mathilde.
J'ai une question pour toi, Eric. Il y a une citation que m'a donnée Nabil au téléphone, de Mandela, « Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ?
Ben, ça résume... Ça résume ma pédagogie. Ça résume ma façon de parler aux gens. Cette phrase, pour moi, me dit une chose. Une, c'est qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Que l'expérience, c'est la somme des échecs. Que lorsqu'on a un échec, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas tomber. Il faut avoir la capacité de se relever. Et cette phrase-là, justement, montre que lorsqu'on est en une forme de compétition, il faut toujours se dire une chose, c'est que même dans la défaite, on peut sortir de là avec un enseignement. Et cet enseignement-là, justement, comme nous le dit Mandela, et c'est ce que j'ai essayé d'amener dans l'émergence, c'est que lorsqu'on entre en compétition, il n'y a jamais un vainqueur par la pensée. Il y a toujours une complémentarité par la façon dont les idées dialoguent ensemble. Et voilà ce que peut m'inspirer la phrase de Mandela.
Alors, on va à présent passer... à ton instant narration, Mathilde, qui va parler de toi, de peut-être de tes émotions aussi. Mathilde, c'est à toi.
Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices. Je vous remercie de nous écouter encore. Et je vous demande encore quelques minutes d'attention pour mon instant narration. Je tiens ce soir à vous parler de l'aventure que je vis en ce moment avec Émergence. Aujourd'hui, nous préparons Émergence 4, on a tous du talent. Les places pour le spectacle sont déjà toutes prises. À croire que ce que nous proposons, des gens le comprennent et veulent en voir l'évolution. Mais d'abord, parlons du moment où je suis entrée dans l'aventure. Je me souviens encore de ce week-end où je me suis inscrite à Émergence 2 sur Facebook pour la grande soirée éloquence au théâtre de Grenoble. Je me souviens encore du jour où je suis arrivée à la chaufferie avec mon amie. Nous nous étions assises, un peu mal à l'aise. À notre droite, quelqu'un de visiblement assez sympathique avait ce rire franc que l'on a entendu toute la soirée, ce même rire que vous pouvez entendre tous les soirs, tous les jeudis soirs, de 20h à 21h. Je me souviens encore du petit groupe que nous étions dans l'une des salles de Stendhal sur le campus étudiant de Grenoble. Ce même groupe qui devait être formé à l'art du discours et de l'éloquence. Je me souviens encore des heures que nous avons passées à simplement discuter de cette ville de demain, que nous devions imaginer à l'intérieur de nous-mêmes, nous l'approprier pour mieux la défendre devant le public du théâtre de Grenoble. Ce qui est assez fou avec Émergence, c'est que chacun peut décider de s'inscrire à sa manière dans chaque projet qui est lancé. À travers tout ce que nous avons vécu, nous avons formé une famille qui est différente par rapport à toutes celles que nous connaissons. Il y a la famille dans laquelle tu es né, la famille que tu crées avec tes amis, que tu fréquentes au fil des années, et la famille Émergence qui te laisse libre d'exprimer ton art et aujourd'hui de le faire, se rencontrer, puis se confronter avec les autres. C'est assez magique cette cohésion qui émerge ainsi entre chacun. Des amitiés inattendues ont été créées, des rencontres ont transformé nos vies. Nous sommes tous solidaires. Nous nous entraidons pour que chacun puisse atteindre des sommets dans son art. Nous pouvons toujours compter sur certaines personnes qui restent là pour nous aider et nous soutenir, mais aussi pour nous apprendre à modifier de notre seule écriture la structure et le fond de notre texte. Émergence, c'est une équipe de gagnants. On s'améliore, on continue en corrigeant nos erreurs, on recommence, jusqu'à ce que nous atteignions le résultat que vous voyez en spectacle. Chaque erreur était une opportunité pour nous de nous améliorer, parce que nous croyons en nous. J'ai découvert grâce à eux ce que signifiait la fraternité. Cette famille nous a tous permis de grandir. Créer un spectacle pour Émergence demande du temps et de l'énergie, mais les deux viennent du cœur. Pas besoin de contrat, les choses se font naturellement. Émergence, E-M-E-R-G-E-N-C-E-S, excellence, magnifique, étoile, rencontre, grandeur, évolution, nouveauté, commun, esprit ouvert, singularité. Oui, c'est la grandeur des rencontres qui nous apporte une évolution, une nouveauté, et cela le pouvoir de créer un commun, fondé sur l'ouverture d'esprit, mais toujours dans le respect de la singularité. Cet ensemble est magnifique, et nous mène vers l'excellence pour nous faire toucher les étoiles. Émergence est aussi trois points. Je dirais que c'est tout d'abord un ensemble de rencontres tout aussi magiques les unes que les autres. J'ai pris une claque parce que j'ai réalisé que chacun d'entre eux avait quelque chose à m'apporter, que chacun d'entre eux avait quelque chose d'unique, mais que moi aussi j'avais des choses à leur apporter dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ce sont des rencontres qui mènent à un partage et qui apportent de la valeur dans nos cœurs. C'est là où nous voyons que les préjugés nous empêchent de découvrir et de comprendre beaucoup de choses. Je dirais ensuite que c'est un dévoilement intime. Je l'ai vu, la connaissant pourtant à peine, se laisser pleurer devant le groupe parce qu'elle nous remerciait de lui avoir apporté tout ce que nous avons fait. Que cela l'avait fait découvrir réellement qui elle était et que cela lui avait changé sa vie. Pendant la représentation au théâtre, il a avoué devant des centaines de personnes qu'il pensait qu'on n'aurait rien à lui apporter, mais que c'est lui, au final, qui n'avait rien à nous apporter. Je dirais enfin que c'est le renouvellement. Il n'y a pas un Émergence qui se ressemble. Chaque Émergence nous donne une opportunité de nous dévoiler autrement à nous, mais aussi à vous, et de nous redécouvrir chaque fois, ainsi que les autres. Aucun de nous ne sait où Émergence nous portera, mais nous suivons l'aventure tant qu'elle existe, parce qu'elle est trop belle pour être balayée d'un revers de la main. J'attends avec impatience de voir ce qu'elle nous réserve. En attendant, nous continuons de gravir ensemble la montagne.
«
Merci Mathilde pour cet instant narration, très bel instant narration, en lien évidemment avec ton aventure au sein d'Emergence. Alors on va pas tous les faire, Emergence, commun, esprit ouvert. Et le S c'était quoi?
Le S c'était singularité.
Singularité, un mot qui a évoqué Eric tout au long de...
Oui, tout au long de
cette, tout au long de cette soirée. Non, je pense que c'est vraiment cet échange, ce lien-là qui se fait. Eric, est-ce que ça t'inspire une réaction?
Non. Elle a tout dit. Franchement, quand elle parlait, ça répondait à une de vos questions. C'est ça qui peut rendre quelqu'un fier. Fier d'avoir apporté une petite chose. Et quand je l'entendais parler, je me suis dit, j'ai apporté une toute petite chose. Et la façon pour elle de décrire Emergence, juste un seul mot, waouh.
Merci.
Bravo Mathilde.
Merci.
Et merci pour le sourire franc qu'on entend tout le jeudi soir. Merci Mathilde.
J'étais obligée de le dire.
Tous les soirs, 20h sur News FM, 101.2 FM.
En effet.
Bon, alors prendre les choses sérieuses, parce que l'émission n'est pas finie. Tu l'as dit Mathilde, Emergence 4, c'est déjà complet. Donc si vous aimez la danse, le chant, l'éloquence, la magie avec Kader Bueno, eh bien, tant pis pour vous. Sauf si vous avez réservé vos places. Auquel cas, nous vous attendons avec grand plaisir. Mais pour jeudi prochain, et aussi vendredi et samedi, vous pourrez aller voir une humoriste qui s'appelle Laura Domange. Elle est très talentueuse et elle sera une de nos prochaines invitées dans Open By. Et j'ai eu l'occasion de la voir au téléphone tout à l'heure pour qu'elle nous présente en quelques minutes son spectacle. Et avec nous, on a Laura Domange. Bonsoir Laura.
Bonsoir tout le monde.
Eh bien, merci d'être avec nous en presque direct sur News FM. Tu vas venir la semaine prochaine jouer ton spectacle en rodage à Grenoble. Est-ce que tu peux nous dire les dates?
Oui, bien sûr. Donc, je vais venir les 12, 13 et 14 décembre. Donc, le spectacle en rodage, c'est pas le titre. Hein. En rodage, c'est le principe. Voilà.
Le principe. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est?
Bien sûr, c'est que là, je suis en train de construire mon nouveau spectacle. Et du coup, ça va être la première fois de toute ma vie que je vais dire les blagues que j'ai écrites, qui, pour moi, dans ma tête, sont drôles. Mais après, je sais pas, il va falloir que le public tranche. Et on appelle ça en rodage parce que d'un soir sur l'autre, le spectacle va s'affiner. Là, je suis partie pour 6 mois de rodage. Et du coup, si on vient me voir le 12 décembre et qu'on vient me voir le 14 décembre, il se peut qu'on n'assiste pas au même spectacle.
Donc, est-ce que dans l'idée, le spectacle sera meilleur le 14 décembre que le 12 décembre ou ce sera juste différent?
J'espère, ou alors c'est que je suis vraiment nulle.
Non.
Oui, clairement, les spectacles, je pense que ça ne va pas changer non plus du tout au tout, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, entre le 12 décembre 2019 et le 12 décembre 2020, il y aura un énorme changement. Donc, c'est intéressant pour un spectateur, je trouve, d'aller essayer de voir les comparaisons. C'est comme quand on aime le jeu des 7 différences, quoi, tu vois.
Oui. D'ailleurs, j'espère que tu auras l'occasion de repasser après à Grenoble en 2020, quand ton spectacle sera affiné, sera prêt.
Probablement au Zénith.
Au Zénith. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas tout à fait de Zénith à Grenoble, il y a un summum.
Ben voilà, c'est déjà pas mal.
c'est déjà un bel endroit à remplir. Alors, on ne cache rien à nos auditeurs. Tu devais être présente cette semaine à Grenoble également, mais malheureusement, tu ne seras pas là. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi?
Oui, ben je ne serai pas là à cause des grèves. Je suis à Paris actuellement et on est assez bloqué. La SNCF a annulé les trains d'aller et de retour. Donc, j'adore Grenoble, mais je ne peux pas y rester bloqué tout le mois de décembre. Donc, du coup, j'ai absolument pas pu me rendre. J'ai essayé par tous les moyens possibles de venir, mais bon, j'ai pas le permis. Donc, c'est impossible. Impossible pour moi. Je suis désolée, mais bon, heureusement, on avait prévu 2 semaines, donc voilà, on espère que d'ici le 12 décembre, tout va reprendre et que je vais pouvoir venir, voilà.
Eh bien, écoute, on l'espère aussi, en tout cas, on t'attend avec hâte et tu en profiteras pour nous faire un petit coucou dans le studio d'Open Bay sur News FM pour une émission qui sera diffusée le 19 décembre, si tu veux, bien sûr.
Avec grand plaisir.
Eh ben c'est parfait, donc on rappelle les dates, 12, 13, 14 décembre à la basse-cour, c'est une seule petite salle, mais qui est assez sympathique, dans le centre de Grenoble, et le 19 décembre dans Open By. Merci beaucoup Laura pour ton appel téléphonique, et on te donne rendez-vous très bientôt.
Merci à vous tous, et bonne écoute sur Open By.
Exactement, elle connaît déjà. Merci Laura, à bientôt.
Au revoir.
Alors on est désolé pour la qualité du son qui n'était pas terrible et on embrasse Laura Domange qui sera là dans 2 semaines, dans l'espère, dans Open By la semaine prochaine, 12, 13 et 14 décembre. à la Basse-Cour, qui est un petit café-théâtre de Grenoble. Eric, l'émission se termine.
Oui.
Est-ce que tu veux donner un petit mot pour la fin?
Oui, remercier vous, Mathilde, et vous également, Amine, parce que voilà...
On se vous voit maintenant, c'est beau.
Ouais, c'est aussi peut-être ça, une forme de déformation, peut-être tutoyenne jusqu'à là, jusqu'au bout. Vous êtes justement un des exemples qui montre que voilà, ce qu'on a bâti avec Émergence se poursuit dans d'autres divers projets. Remercier également toute la famille Émergence, je ne vais pas toutes les citer, mais de peur de froisser certains. Remercier la chef de projet qui nous a donné l'opportunité de nous rencontrer, Madame Nora Ouazizi.
On embrasse.
Et le maire de la ville de Grenoble.
Eric Piolle.
Et M. Piolle qui met tous ses moyens là. Remercier tous ceux qui ont bien voulu me faire un mot. Nabil, accompagné, comme il aime bien souvent, s'il vient le dire, son étoile de beauté Amina et tous les enfants. Oussem, qui est du côté de Genève. Remercie voilà, toutes ces petites mains qui ont contribué à faire de moi la petite personne que je suis, en commençant par ma tendre épouse, Floriane, et les enfants qui me procurent du bonheur.
Eh ben, c'est formidable. Merci beaucoup, Mathilde.
Bah, merci à toi, Mine, de nous avoir animé l'émission.
Merci, Mathilde, de l'avoir réalisé, d'avoir participé, d'avoir cherché des petites infos auprès de quelques amis d'Eric aussi.
Ouais.
Merci à toutes les équipes de News FM. Merci à vous, les auditeurs et les podcasteurs, parce qu'on est déjà plus de 300 personnes qui ont visité notre podcast d'Open By. On vous en remercie et on vous embrasse. D'ailleurs, on est en replay, on vous le dit, hein, sur le site de News FM et sur vos applis de podcast, iTunes, Deezer, Spotify, l'appli de podcast de votre téléphone. Ce qui veut dire que vous pouvez télécharger et réécouter l'émission quand vous voulez. Je sais pas, par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans votre lit le soir pour dormir, vous êtes aux toilettes, où que vous sous la douche, où que vous soyez, vous pouvez réécouter l'émission. Oui, je pars en live, je suis pas le texte, je m'en fous. Et c'est absolument formidable. Merci Eric de rire plus fort que moi. Donc voilà, donc vous nous suivez, vous n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @openby, OPENBAYES. Oui, j'épelle les lettres comme Mathilde épelle Émergence. Motus. Alors rendez-vous la semaine prochaine, pas à 20h puisque nous serons à Émergence 4, vous l'avez compris. Mais on vous prépare quand même une très belle surprise. Et le dernier rendez-vous inédit de l'année 2019 sera le 19 décembre, 19-19, avec, on l'espère, Inch'Allah, Laura Domange. On vous souhaite une très très bonne soirée. Eric, tu peux souhaiter une très bonne soirée aux auditeurs.
Merci. À nous revoir le 12 décembre pour voir les merveilles des singularités d'Émergence.
Absolument. Et on se quitte en écoutant...
Patience d'Abani, l'amour d'une mère.
Il faut savoir revenir en arrière, ouvrir la porte de maman. L'amour d'une mère, l'amour d'une mère, ne s'éteint jamais.
Écoute ce que les autres n'ont pas. News FM.
News FM.
101.2.